Spéciale préparation du bac, on ne va pas donner de conseils, quoique. Mais Rue des Écoles s'intéresse aujourd'hui aux innovations et elles sont nombreuses pour aider les élèves dans leur révision. Et à l'objectif affiché qui n'est plus de simplement réussir l'examen, mais de décrocher une mention. L'occasion également d'examiner le fait que le bac est aussi un enjeu pour les médias. Oui, oui. Emmanuel Davidenkov du Monde, Géraldine Mosna-Savoie de France Culture et bien sûr Marie-Caroline Missire de l'étudiant seront avec nous. Bonjour à tous, bienvenue dans Rue des Écoles, le rendez-vous de l'éducation de France Culture. Marie-Caroline Messire qui cumule les postes aujourd'hui, puisque vous êtes aussi à la rubrique Actualité. Vous avez sélectionné pour nous des actualités cette semaine que vous allez analyser. Je rappelle que vous êtes directrice de la rédaction de l'étudiant, Marie-Caroline. Et d'ailleurs, de quoi nous parlez-vous cette semaine ?
Eh bien, je vous le donne en mille. On va parler de la réforme du collège, mais bon, pas seulement.
Et puis en fin d'émission, focus sur les 1 an de la mobilisation contre la réforme du collège avec une invitée, une enseignante. Laurent Genepin, attaché de production, Alexandra Malka à la réalisation, à la technique aujourd'hui, Benjamin Vignal. N'oubliez pas le podcast de l'émission, disponible par exemple sur franceculture.fr. Et pour vos commentaires longs ou courts, j'attends vos mails, vos courriers et vos tweets, hashtag RDE.
France Culture.
Rue des Écoles,
Louise Touré.
Le bac, on en parle avec des spécialistes, spécialistes en général de la question ou spécialistes momentanément. Je vais expliquer pourquoi. Bonjour Emmanuel Davidenkov.
Bonjour Louise, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste éducation depuis de nombreuses années. Je n'ai pas réussi à savoir combien. Vous êtes actuellement rédacteur en chef au Monde Campus, qui a une proposition éditoriale assez riche sur le bac qui se renouvelle un petit peu cette année, Emmanuel ?
Qui est riche, qui se renouvelle, qui est en partenariat d'ailleurs avec France Culture. Et oui, qu'on renouvelle chaque année. Cette année, la grande nouveauté, c'est surtout la mise à disposition en partenariat avec une plateforme qui s'appelle Les Bons Profs, de toute une série de vidéos de petits formats extrêmement accompagnants et convaincants.
Oui, on va en écouter certains. Et puis, ce partenariat avec France Culture sur certaines de nos émissions, car France Culture a toute une palette d'émissions qui sont associées au bac. Ça commence demain, lundi. Ça commence aussi avec la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes productrice des Nouveaux Chemins de la Connaissance. On salue chaleureusement Adèle Van Rett. Cette semaine du bac, vous l'avez préparée depuis longtemps. Vous avez bien révisé ?
On a bien révisé. On a été aidés par des professeurs et par leurs élèves. C'est la deuxième semaine de l'année qu'on consacre à la préparation du bac philo. Et il y a deux dissertations, deux explications de texte, des extraits. On garde la formule des Nouveaux Chemins, mais adaptée aux lycéens.
Le bac philo, on va quand même en dire un mot. C'est lui qui ouvre le bal des filières générales, même s'il y a d'autres épreuves avant pour d'autres filières. Il reste très symbolique. C'est peut-être le rite de passage qui marque l'entrée dans le bac. Vous le ressentez, vous, dans votre émission, en parlant avec les enseignants, par exemple ?
Alors, la philosophie, l'épreuve du bac philo, c'est à la fois le coup d'envoi, effectivement, des épreuves du bac en tant que tel, mais il y a quelque chose de tout à fait symbolique, c'est-à-dire que tout le monde se souvient du sujet qu'il a eu au bac philo, tout le monde se souvient de son année de philo, de la découverte de la philo, et effectivement, les Nouveaux Chemins, dans ces semaines-là, s'adressent aux lycéens, mais en fait, va toucher un public aussi beaucoup plus large, parce qu'à chaque fois que ces sujets tombent, là, qu'est-ce qu'on aurait répondu ? Ah, c'est tombé sur le pouvoir, est-ce que j'aurais parlé de l'actualité ? Est-ce que j'aurais parlé de tel film, d'autre chose ? Donc, il y a quelque chose qui touche un public beaucoup plus large que les lycéens.
Un public qui se souvient aussi de cette épreuve, qui a peut-être été un rite pour lui. J'indique également que La Fabrique de l'Histoire, les émissions de Culture Science et cette année La Compagnie des Auteurs de Mathieu Carigou-Lagrange sont associées à cette semaine spéciale bac sur France Culture qui commence demain. Nous, on commence avec les actus. Les actualités de Marie-Caroline Missire, directrice de la rédaction de l'étudiant. On fête, enfin je ne sais pas qui l'a fête, mais on fête les 1 an de la contestation contre Collège 2016, c'est-à-dire contre la réforme du collège, avec un mouvement social chez les enseignants. La journée du 19 était appelée par le SNES, Journée Action et Résistance Pédagogique.
C'est surtout une façon habile pour le SNES de surfer sur la vague de la contestation anti-loi travail, tout en casant des revendications plus corporatistes, ce que le syndicat désigne par un terme assez flou, celui de résistance pédagogique. Allez savoir ce qu'il y a derrière. Le mouvement continue donc, alors que sur le front de la réforme du collège, c'est un véritable coup de théâtre auquel on a assisté cette semaine.
Alors c'est un peu comme une de ces séries qui rendent accro, un véritable retournement de situation qui rebat les cartes.
L'épisode se jouait à Marseille, le lundi de Pentecôte, au congrès de la FCPE. Contre toute attente, Louise, la première fédération de parents d'élèves, a voté une motion contre la réforme du collège. À quelques mois de la rentrée, ce retournement d'un allié crucial du ministère sur ce dossier fait un peu désordre. Le ton employé par la fédération est même carrément menaçant. Je cite, « La FCPE ne peut cautionner la mise en œuvre d'une réforme dont les premiers signes ne respectent pas son esprit initial », écrivent ses auteurs. « Si le ministère de l'Éducation nationale continue dans cette mise en application dévoyée, la FCPE dénoncera cette réforme ». On dirait un peu du SNES dans le texte. La fédération de parents pointe en fait les nouvelles pratiques pédagogiques, l'accompagnement personnalisé, les EPI, les enseignements pratiques interdisciplinaires, qui sont, estime-t-elle, trop peu définis et non financés. Les moyens pour la formation et la concertation des enseignants sont aussi jugés sous-évalués pour garantir l'efficacité de ces dispositifs.
Bon, on rappelle que jusqu'ici, la fédération a accompagné la réforme. Alors pourquoi, Marie-Caroline, un tel revirement ?
Eh bien, derrière cette motion, un combat de courant, comme les affectionnent les associations de parents. Leur congrès, qu'il s'agisse de ceux de la PEP, l'autre association de parents, ou de la FCPE, sont immanquablement hauts en couleur et donnent lieu à de véritables batailles rangées entre telle ou telle chapelle. C'est donc ici le courant des anti-réformes qui a pris le dessus, de justesse quand même, il faut le souligner. À ce stade, ni le cabinet ni Matignon n'ont montré la moindre inquiétude sur ce sujet. Pourtant, ce changement de braquet va donner un coup de fouet à la contestation. Comme dans une bonne série, l'action est relancée et on se demande bien comment les choses vont évoluer.
Et oui, on se le demande. La mobilisation contre la loi travail inquiète aussi les proviseurs. Trop d'heures de cours ont été perdues.
Oui, on l'a noté, dans Rue des Écoles, la contestation se radicalise et dans certains lycées bloqués, c'est un peu à la recherche des cours perdus. Le secrétaire général du syndicat majoritaire des proviseurs, Philippe Tournier, les chiffres à une perte d'heures à peu près équivalente à une semaine entière sur le troisième trimestre, à peu près 10%, mais... Comme la fréquence des mobilisations a été surtout marquée le jeudi, nous dit-il, le hasard de l'emploi du temps fait que des élèves ont perdu beaucoup d'heures de cours dans une matière en particulier.
Par exemple, si on a 3 heures de philo le jeudi...
C'est perdu pour la philo.
Très peu de philo.
Donc il s'alarme, il nous dit sur le site de l'étudiant qu'il va y avoir un vrai problème, notamment pour les élèves les plus fragiles. Il n'y aura pas un problème d'échec, dit-il en masse au baccalauréat, mais il y aura des dégâts individuels.
Le médiateur de l'éducation nationale prône la bienveillance pour ses personnels. Alors, je me suis interrogée, c'était pas le cas jusqu'à présent, Marie-Caroline ?
Pas vraiment. C'est comme pour le bac dont nous allons parler. Le rapport du médiateur de l'éducation nationale revient en fait chaque année. C'est un travail en général passionnant que présente cette autorité qui est chargée de trouver une médiation dans les différentes situations de conflit sur lesquelles il est saisi. Elles sont nombreuses dans l'éducation nationale. Cette année, donc, l'inspecteur général Claude Bisson-Vèvre a mis le doigt sur le point faible de l'éducation nationale, la bienveillance justement, la gestion des ressources humaines et plus spécifiquement ce qu'on appelle le mouvement des personnels enseignants.
Alors comment ça se passe ce mouvement ? On peut peut-être rappeler ce que c'est que ce système de points un peu complexe.
C'est très compliqué et très important pour les enseignants. Quand on commence sa carrière, il n'est pas rare de se retrouver assez loin de sa région d'origine. De même, les conjoints peuvent être séparés jusqu'à 3 ans, apprend-on dans ce rapport, ce qui est quand même assez long. Changer d'établissement est toujours compliqué et demande une certaine expertise de la part des enseignants eux-mêmes dans le calcul de ces fameux points qui leur permettent d'accéder à un poste dans un autre établissement et surtout dans une autre région. Cela occupe beaucoup les enseignants et surtout leurs syndicats qui y sont très attachés. Et c'est une partie du travail des organisations représentatives d'épauler les profs dans leurs demandes d'affectation.
Et que dit le médiateur donc ?
Eh bien, il appelle à une plus grande transparence sur les règles qui président aux mutations. Il propose même une cartographie du mouvement par discipline. C'est une excellente idée, d'ailleurs. Et puis, plus globalement, il demande une plus grande bienveillance, on y arrive, des autorités administratives dans la gestion de ces situations humaines, parfois délicates.
Alors allez savoir pourquoi, Marie-Caroline, j'avais envie de parler de cigarettes cette semaine. D'abord parce que les élèves fument, on l'a découvert à l'occasion de Vigipirate. On a été obligé d'organiser des zones fumeurs dans certains établissements. Et puis justement, des lanceurs d'alerte ont épinglé une université. Oui, une université.
cette semaine.
Et vous aurez peut-être du mal à le croire, mais l'université de Zurich, qui s'enorgueillit quand même de 12 prix Nobel, a publié en 2014 deux articles scientifiques très sérieux concernant les paquets neutres. Vous savez, ces paquets sans mention. Et ils montrent que ceux-ci n'avaient pas d'impact sur la consommation du tabac. Hein? Le problème, c'est que ces articles de recherche ont été financés par un certain Philip Morris,
ah oui, celui-là.
Le plus gros cigarettier mondial, lié par contrat avec l'université. Une information qui montre que l'indépendance de la recherche est quand même importante.
Et qui nous a permis de le rappeler. Et pour terminer cette page d'actualité, je voulais revenir sur quelques petits points importants. On avait déjà parlé dans cette émission des tests salivaires de détection du cannabis. Sachez que l'Île-de-France les a rendus possibles. C'était un combat de Valérie Pécresse. Elle a obtenu gain de cause. Et donc, le vote du Conseil régional. Autre actualité, les journées défense et citoyenneté, vous le savez, évaluent le niveau des jeunes Français en langue. Eh bien, sachez, on l'a entendu cette semaine, que le chiffre des jeunes touchés par les difficultés de lecture a augmenté en 2015 par rapport à 2014. 10% d'entre eux seraient en très grande difficulté par rapport à la lecture. Pour 4,3% des jeunes de notre pays, c'est de situation de handicap dont on peut parler, considérant la relation à la langue française. Et ce même jour, mercredi justement, le Conseil des ministres rendait publique la décision de la création d'une agence de la langue française pour la cohésion sociale.
France Culture,
rue des Écoles,
Louise Touré.
Alors, je vais vous parler de la loi binomiale et de ses conditions d'application. On considère une expérience aléatoire qui ne possède que deux résultats. Un premier résultat, qui s'appelle le succès, et un second résultat, l'échec. Évidemment, l'échec est l'événement contraire du succès, donc si on note S le succès, l'échec, c'est S bar. On pose petit p égale la probabilité du succès, et Q, la probabilité de S bar, probabilité de l'échec.
Mais pour le baccalauréat, il n'y a pas deux résultats possibles, le succès ou l'échec, avec 91,5% de succès dans les filières générales. Avoir le bac, ce n'est plus suffisant pour se distinguer, pour s'orienter peut-être dans les filières sélectives, ou tout simplement pour faire plaisir à ses parents ou à soi-même, et pour faire mieux, pour faire plus, pour mieux réussir, des sociétés privées, des entreprises de soutien scolaire, des acteurs des nouvelles technologies et des médias, tels que L'Étudiant, Marie-Caroline, Le Monde, Emmanuel Davidenkov et France Culture, Géraldine Mosna-Savoie, s'intéressent à la réussite au bac, vont accompagner des élèves. C'est aussi l'occasion de rajeunir son public, de se faire connaître auprès des lycéens et pourquoi pas de fidéliser ses futurs étudiants. Alors, je vais commencer avec cette fameuse mention au bac. Emmanuel Davidenkov, est-ce que vous partagez mon analyse ? La mention, aujourd'hui, est devenue presque aussi importante que la simple réussite au baccalauréat.
Vous dites qu'il n'y a pas deux façons de... On l'a ou on ne l'a pas. Moi, je pense qu'il y a 600 000 façons de le réussir. C'est-à-dire que pour chaque candidat, c'est important, le baccalauréat. Et on voit d'ailleurs chaque année, je pense qu'on le reverra cette année au moment des résultats, émerger un débat sur la valeur de ce diplôme, puisque effectivement, le taux de réussite avoisine les 90% dans certaines filières, qui contraste avec la joie absolument prodigieuse que manifestent les jeunes quand ils découvrent qu'ils l'ont. Et d'ailleurs, souvent, c'est une joie qu'ils partagent. C'est un moment social, puisqu'ils peuvent avoir tout ça sur Internet. Un certain nombre de sites, je crois que L'Étudiant le fait, Le Monde le fait aussi, donnent les résultats du baccalauréat. Et pourtant, ils veulent aller voir, ils veulent partager. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de façons de réussir le baccalauréat. C'est peut-être la nouveauté de ces dernières années. C'est-à-dire qu'on va lui attribuer une certaine valeur. La mention peut faire partie de cette valeur. Ça peut être un élément de cette valeur. On sait que les mentions très bien donnent finalement assez peu de droits aujourd'hui. Alors, vous avez certaines banques qui vous donnent des petites primes pour essayer de vous attirer si vous avez une mention très bien, en se disant ce sera un bon client derrière. Il y a certains établissements d'enseignement supérieur qui continuent à prévoir un accès direct aux oraux, en considérant qu'une mention très bien, c'est pas la peine de faire repasser éternellement un écrit. Rappelons quand même que le baccalauréat est un grade de l'enseignement supérieur. Hein, c'est pas seulement un diplôme de l'enseignement secondaire, c'est un grade de l'enseignement supérieur. C'est délivré par l'université française. Voilà. Mais en termes d'orientation, par exemple, mention ou pas mention, ça ne change pas grand-chose, puisque de toute façon, tout a été traité, tout a été décidé pendant la procédure APB, admission post-bac, qui s'ouvre dès le mois de janvier, et bon, qui se clôt certes au moment du baccalauréat. Il faut quand même prouver qu'on a le baccalauréat, mais disons que l'essentiel est joué, et notamment pour les élèves qui tentent d'entrer dans une filière sélective et pour lesquels, bah, ils ont déjà le résultat au moment où ils passent les épreuves.
Avec des dossiers scolaires, travailler depuis longtemps, il faut être un bon élève depuis le collège, hein, parfois pour être sélectionné dans des filières sélectives. Si le bac est une simple formalité et en termes d'orientation et aussi parce que la plupart des bons élèves ou même des élèves qui ont des résultats moyens le décrochent, Marie-Caroline Missire, comment expliquer cet engouement médiatique aussi autour de la préparation du bac?
Je voulais quand même revenir sur un point sur la formalité, en fait ce qu'on dit peu, mais c'est quand on n'a pas son bac. On n'est vraiment pas bien.
Ça, en revanche, on
donc
sait
ça,
que...
ça déconstruit un petit peu le discours
ceux
sur
qui
le
ne
fait
sont
que...
pas bacheliers absolument. Sont et les plus en difficulté.
Et c'est un vrai sujet que l'on retrouve dans les discussions, les dispositifs autour des élèves décrocheurs, autour des élèves fragilisés, autour voilà, d'élèves qui ne valident pas ce passage obligé et qui n'est pas si facile que ça à atteindre. Voilà, ça c'était pour relativiser un peu le propos, le bac, passage obligé, etc. Mais sur votre question, l'engouement médiatique, bah, y a un truc très simple, c'est-à-dire qu'à l'ère d'Internet, proposer des alertes ou de diffuser les résultats pour un média, c'est un levier d'audience extrêmement puissant. Même si le bac, effectivement, a une importance qui est relativisée au regard de sa fonction et sa valeur, si vous voulez, ça reste quand même un moment extrêmement important dans la vie des familles, dans la vie des jeunes, un moment décisif, un moment social, hein, comme l'a souligné Emmanuel. Et puis pour les médias, bah, c'est l'occasion de toucher un très très grand public, puisqu'en une fois, vous pourrez intéresser directement des internautes qui vont aller venir chercher un résultat. Et donc ça, pour une appli,
c'est ce qu'on appelle
par exemple,
le graphique.
Voilà, c'est extrêmement puissant. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, il y avait quelques années uniquement les médias spécialisés qui le proposaient, comme l'étudiant. Absolument. Et aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de médias généralistes s'engagent sur ce créneau parce que voilà, ça concerne directement les jeunes. Et un jeune qui reçoit ses résultats du bac via un média, et ben, ça restera dans sa mémoire, certainement.
Emmanuel Davidenkoff.
Qui représente un média généraliste qui aide à passer le bac depuis très longtemps, avec notamment des hors-séries Réviser le bac, qui sont en kiosque et en librairie, et qui propose justement de tisser un lien entre l'actualité et les disciplines enseignées, parce qu'il ne faut pas se substituer. Le baccalauréat, il se prépare au lycée, il se prépare avec des professeurs, c'est là que se prépare le baccalauréat, c'est pas dans des médias, c'est pas sur Internet, voilà, c'est là prioritairement que ça se prépare. Ensuite, chaque média, j'allais dire en conscience, peut se demander, France Culture le fait aussi d'ailleurs, l'étudiant le fait, Le Monde le fait, à partir de ce que nous sommes, à partir de notre identité, est-ce que nous avons un message à délivrer et des informations utiles à délivrer autour de cet événement qui concerne certes les 600 000 futurs bacheliers de cette année, mais également les élèves de première. Donc en fait, vous dites, pourquoi on en parle autant, c'est un marronnier? Ben, c'est un marronnier parce que ça concerne énormément de Français. Donc voilà, c'est quand même un événement majeur. Moi, ce qui me semble important, et je pense que tous les médias représentés autour de cette table le font, c'est effectivement d'insister sur le fait que chacun peut aider les jeunes, et qui sait, les enseignants utilisent des émissions de culture, les papiers du monde, c'est ceux de l'étudiant, je ne sais pas, pour préparer le baccalauréat, mais c'est d'aider en tout cas les candidats à partir de ce qu'on est, et c'est comme ça qu'on arrive à le faire de manière légitime, sinon ça ne sert à rien, sinon ça ne... c'est de l'eau dans le désert, voilà. Donc chacun a sa place, mais oui, dire pour un média d'actualité que les programmes scolaires de tous les baccalauréats sont une porte d'entrée qui permettent de comprendre le monde sans mauvais jeu de mots, ça me semble être quelque chose à la fois de légitime et d'important.
Comprendre le monde, transmettre des savoirs, finalement, c'est la mission, ce n'est pas la seule, mais d'une radio comme France Culture, une mission que vous partagez dans votre émission, Géraldine Mosna-Savoie. En quoi le fait de préparer ces semaines avec des enseignants pour la préparation du baccalauréat vous fait-il évoluer dans la conception de ce qu'est une émission de philosophie qui transmet un certain nombre de connaissances et de savoirs.
Je trouve que le bac de philosophie occupe une place tout à fait originale dans le panel des épreuves. C'est-à-dire que le bac de philo touche un large public à la fois parce que il y a une demande de philosophie et on a une demande d'explicitation de cette épreuve qui touche toutes les familles. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le bac philo et pour les nouveaux chemins de la connaissance... En ce moment, bénéficie effectivement de cette convergence entre la demande de philosophie et la demande de préparation au bac philo. Et nous, le bac philo, à l'inverse, dans le travail de préparation des émissions comme Les Nouveaux Chemins, nous oblige en fait à nous demander à chaque fois comment on a envie de transmettre des choses. Mais finalement, c'est une question qu'on se pose chaque semaine. C'est-à-dire qu'à chaque sujet qu'on choisit, à la manière dont on va construire les émissions, la manière dont on va penser à tel élément, tel extrait, telle chanson, c'est-à-dire que c'est toujours des choses construites à la fois avec l'invité, avec, dans l'équipe, par des discussions. Mais effectivement, là, on est face, avec les bacs philo, face à cet enjeu de pédagogie. Et peut-être que parfois, c'est pas tant qu'on oublie ce souci de pédagogie, mais on va se la poser en des termes différents. Et là, quand on a des élèves face à nous, parce qu'on fait en sorte de faire les bacs philo, ces émissions-là, face à des classes, on est dans un rapport beaucoup plus direct à un public qui va nous écouter à ce moment-là, que l'on va peut-être fidéliser, effectivement. Mais je pense que le public des Nouveaux Chemins est beaucoup plus large, en fait, et que déjà des étudiants, des lycéens, en fait, nous écoutent en partie. Mais effectivement, c'est le moment d'être face à eux pour voir comment ça se passe de transmettre quelque chose. Est-ce qu'on a envie de clarifier un propos? Est-ce qu'on a envie de donner des conseils pour comprendre le monde? Est-ce qu'on a envie de rendre la complexité de ce qui nous entoure? C'est aussi une demande, en fait, quand je pense que les gens ont envie de philo, ils n'ont pas envie qu'on leur dise, voilà une réponse pour agir dans le monde. Au contraire, ils ont envie qu'on leur rende peut-être ce qui est opaque dans le monde et ce qui pose problème. Et avec le bac philo, on est à la fois, nous aussi, dans cette convergence entre explicitation pour réussir une épreuve, mais aussi restitution d'une réflexion, d'une interrogation qui serait propre à la philosophie.
Ce qu'on peut entendre en écoutant Les Nouveaux Chemins, Géraldine Mosna-Savoie, c'est que finalement, il n'y a pas qu'une seule forme pour parler d'un sujet aussi philosophique soit-il. On peut faire appel à de nombreux supports, à de nombreuses références culturelles aussi. Et vous me disiez que bien, c'est quelque chose que vous pouvez partager avec les enseignants, que dans les cours de philosophie, eux aussi, eh bien, se renouvellent, évoluent pour proposer des cours peut-être plus contemporain, plus actuel et s'inspire peut-être aussi de vos émissions.
Ce dont on se rend compte en parlant avec des professeurs de philosophie quand on prépare ces émissions-là, ce dont on se rend compte aussi et ce dont on se rappelle sûrement quand on préparait les épreuves de philosophie, c'est que la philosophie, on a un petit peu quand même dépassé cette image d'une discipline un petit peu austère.
N'aurais jamais dit ça.
Qui serait, en fait, la philosophie a longtemps, je pense, alterné aussi entre cette image très austère, avec des sortes de monuments, genre Marx, Hegel, Platon, qui sont très, très lourds comme ça dans l'imaginaire collectif et indépassables. Et en même temps, cette idée de la philosophie, ah bah ça arrive en terminale, c'est un petit peu, on va donner enfin notre opinion, on va se lâcher, on va pouvoir dire ce qu'on pense du monde. Et ça a vraiment aussi entre cette idée de café du commerce et en même temps de lourds monuments que sont les figures de la philosophie. Et en fait, quand on parle avec des élèves, quand on parle avec des professeurs de terminal, on se rend compte en fait que quelle est la manière en fait à la fois de donner un vrai contenu, de faire une vraie histoire des idées de la philo pendant un cours, c'est aussi peut-être de non pas de rendre abstrait le propos, mais justement de voir là où ça se situe au plus concret des choses. C'est-à-dire, et nous, ça va passer par des films, des extraits de films dans Les Nouveaux Chemins, par des chansons, mais naturellement, les élèves, quand ils préparent le bac, vont se dire, par exemple, Matrix, c'est un petit peu l'exemple indépassable en termes de philosophie, mais même, on a fait une semaine. Le film Matrix. On a fait une semaine sur Steven Spielberg, sur l'enfance, très intéressant, la manière dont il va mettre en scène les questions de l'enfance d'une autre manière et qui peut faire écho peut-être à un cours qu'auraient eu les élèves de terminale sur qu'est-ce que c'est que grandir, qu'est-ce que c'est que d'être responsable, qu'est-ce que c'est que de décider dans sa vie. Donc effectivement, ces supports-là, comme la chanson, la musique, les textes littéraires et les films, permettent de poser des questions philosophiques autrement. Je ne dis pas que tout est de la philosophie, mais à chaque fois, ça restitue une manière d'approcher le monde qui est plus accessible que des textes de philosophie, que de commencer tout de suite par la critique de la raison pure, par exemple. Le baccalauréat en philosophie, ça reste quand même une restitution d'un savoir. C'est pas là où on donne ses idées, c'est pas là où tout à coup... Mais quand même, c'est vrai qu'on va donner de soi-même dans la manière dont on va agencer les idées, la construction d'un plan. Mais effectivement, on peut aussi citer un film en se disant, là, chez Spielberg, dans E.T., on va poser précisément cette question-là de l'enfance. Est-ce que il grandit? Est-ce qu'il décide de rester un enfant? Est-ce que là, c'est le moment où il prend la décision de sauver E.T. qu'il devient adulte? Ou est-ce qu'en fait, il décide de rester enfant, ce qui serait complètement paradoxal? Enfin bref, tout ça, en fait, peut se poser à partir d'un extrait de film, peut-être plus parfois qu'un extrait de texte dont on aurait du mal à restituer le sens, et on va dire, comme on trouve chez Platon, et qui serait un peu vague.
Il y a deux exceptions de la philo, quand même. Premièrement, les bacheliers professionnels n'ont pas le droit à la philosophie dans notre pays. On considère que je ne sais pas pourquoi.
Sauf quelques cas d'expérimentation.
Deux heures, parfois.
C'est rare.
Et la philosophie, effectivement,
c'est
même 30%
des bacheliers. Donc voilà. Et bien la deuxième chose, je trouve ça fait formidable avec la philo et l'importance que prend la philo, et notamment le bac philo, dont on dit à chaque fois qu'il marque le début du baccalauréat, alors que c'est parfaitement faux. Les épreuves ont commencé aujourd'hui.
Je l'ai précisé en tout début d'émission.
Absolument.
Mais quand même, c'est les premières épreuves écrites, c'est-à-dire que les épreuves qui ont précédé...
Des matières principales, et pour les bacs généraux.
Oui,
parce qu'il y a d'autres épreuves, donc voilà. Non, mais je trouve ça très intéressant. Pourquoi? Parce que la philo partage avec le sport, avec la musique, avec les arts plastiques, pour parler des bacs généraux, et puis évidemment, dans les bacs techno et les bacs pro, il y a ça aussi, mais l'idée qu'on va pas seulement être évalué sur des connaissances et sur la restitution des connaissances, mais sur sa capacité à mettre en œuvre la discipline. C'est-à-dire, quand même, c'est dans les programmes, on est appelé à philosopher. Voilà, de la même façon que dans les épreuves d'art plastique, il va y avoir une partie de réalisation d'œuvres, qu'en musique, il y a une option, quand on est instrumentiste ou chanteur, d'interprétation. On va faire. En histoire, on vous demande pas de faire œuvre d'historien, on ne vous demande pas de faire œuvre de mathématicien en mathématiques, etc., etc. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant, et puisse cette approche irriguer l'ensemble du système, et puis elle renoue aussi avec les grands anciens, hein, parce que le corps, on va dire le corps et l'esprit, enfin c'est amusant quand même que ce qui est hérité des Grecs puis des Latins se retrouve dans ces disciplines-là, où on ne se contente pas de vérifier que vous avez appris des choses, mais également que vous êtes capable de mettre en œuvre et de mettre en risque au besoin soit votre esprit, soit votre corps pour produire quelque chose, et à la fin pour produire un être complet.
Des démarches qui aussi seront celles des futurs étudiants dans leur cursus, pour ceux qui vont continuer leurs études. Marie-Caroline Missire, je voulais quand même revenir à l'aspect offre des médias pour aider à préparer le baccalauréat. Alors je disais, une offre qui se renouvelle, on court pas un peu après la modernité. J'ai vu qu'il y avait des tutoriels pour faire des fiches, des Tumblr. L'éducation nationale se lance sur Snapchat. Qu'est-ce qu'on cherche avec toutes ces innovations plus ou moins technologiques?
Je crois que le bac cristallise un moment important que vivent les médias. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a une offre qui s'étoffe en ce moment. Hein. C'est que à travers le bac, à travers un événement comme ça, les médias ont l'occasion de montrer qu'ils ne sont pas plus simplement des contenus, des diffuseurs de contenus, mais des diffuseurs de services et d'accompagnement au quotidien de leurs auditeurs, de leurs lecteurs, de leurs internautes. Et c'est pour ça que ça se cristallise au moment du bac. Un, pour l'aspect grand public, qu'on a évoqué tout à l'heure, concernant, vilain mot qu'on utilise beaucoup. Et puis deux, parce que c'est un champ d'expérimentation incroyable, d'invention de services. Alors effectivement, en ce moment, il y a une profusion d'offres, et c'est assez formidable, quand on a la chance de s'intéresser à l'éducation, de pouvoir expérimenter des choses, des formats, ce que fait aussi l'éducation nationale, sur un sujet aussi traditionnel, aussi rite républicain, aussi intouchable que le bac. Il y a un côté assez jouissif de faire ce travail-là. Alors, à l'étudiant, ça fait de nombreuses années qu'on fait ce travail, et tous les ans, effectivement, la question du renouvellement de l'approche du bac se pose dans une rédaction spécialisée, comme chez tous les journalistes spécialisés, comment on va traiter le bac cette année. Et je crois qu'autour de cette notion de service, on peut faire pas mal de choses en s'intéressant aux réseaux sociaux sur lesquels sont les jeunes, et en s'intéressant aussi à une certaine cohérence pour pas que ces innovations éditoriales ne soient que des gadgets ou des coquilles vides.
Donc la vraie question du bac, mais celle-là pour les médias, c'est comment se renouveler? C'est l'épreuve annuelle. D'abord, parce que vous l'avez dit, Emmanuel Davidenkopf, le bac, c'est un marronnier. D'ailleurs, on ne se renouvelle pas tellement. Il y a des reportages qu'on peut voir à peu près sous la même forme tous les ans avec des élèves et des lycées qui se ressemblent, mais comment se renouveler donc dans son approche journalistique et dans sa proposition d'accompagnement à un moment où les médias sont obligés de réinventer leur rôle, crise de la presse oblige, je suis désolée de le rappeler, et renouveler son rôle, ça veut dire aussi proposer un certain nombre de services, si je vous suis bien Marie-Caroline Missire, ça peut être la météo, la route, c'est quelque chose que les radios connaissent bien, pas sur France Culture, et puis donc la réussite dans sa vie, l'accompagnement dans l'orientation, c'est ça Emmanuel Davidenkopf?
Oui, c'est quand même servir, certes, mais c'est servir aussi une partie de notre lectorat. Une étude ACPM Global One qui indique que 44% des élèves du secondaire et des étudiants lisent Le Monde, que ce soit en digital ou en papier, ça fait quand même du monde. Alors,
Fait quand même plaisir.
Ça fait 2 millions, ça fait plaisir. Donc il faut quand même leur donner des choses qui les concernent un petit peu directement. On a créé effectivement, il y a maintenant pas loin de 2 ans, cette rubrique sur le site internet du Monde qui s'appelle Campus, dont on sait qu'elle est massivement fréquentée par des jeunes, on le sait, un certain nombre d'indices, et notamment la fréquentation via les réseaux sociaux et l'importance de la consultation sur les mobiles, qui sont deux indices redondants de la même information qui est, ça touche les jeunes plus massivement. Donc j'allais dire, la première chose c'est quand même ça, c'est d'abord de parler à son lecteur de sujets qui impliquent et qui concernent le lecteur. Ensuite la deuxième c'est effectivement de se dire, à partir de ce que nous sommes, que pouvons-nous faire légitimement? Donc il y a chacun tire son fil. Le Monde pendant de longues années publie les dossiers et documents, qui étaient une synthèse annuelle, papier, c'était la glorieuse époque du papier, c'était avant même le Minitel, mais qui prétendait notamment en économie, en histoire géographie, en relations internationales, mettre en lumière depuis 1944 et la naissance du journal, un certain nombre d'articles et de récits, de reportages, d'analyses qui avaient été produits sur des événements marquants, dont il se trouve qu'ils étaient aussi au programme, un tel du baccalauréat, un autre du concours d'entrée à Sciences Po, un troisième du concours des écoles de commerce. Donc je crois qu'il y a cette question-là, c'est ce qu'on prolonge avec les hors-séries Réviser son bac papier qui s'appuie sur des articles du Monde pour faire le lien entre l'actualité et les programmes. Et puis il y a d'autres offres complémentaires qu'on peut imaginer. Il se trouve que nous, on a plutôt centré une fois de plus sur les pratiques de nos lecteurs jeunes en l'occurrence, à savoir beaucoup de mobilité, beaucoup de consultations sur des écrans portables, sur des écrans de téléphone portable. Donc après, il faut adapter les formats. Mais j'allais dire, de la même façon qu'on tente de... Vous savez, c'est une dialectique permanente entre les modalités de lecture. Il y a des tendances en matière de modalités de lecture. Et puis, ce qu'un journal estime devoir faire. Je veux dire, on a pu lire et écrire pendant des années qu'il ne fallait pas faire d'articles longs, etc. Le Monde et d'autres prouvent chaque jour que ce n'est pas forcément vrai. Et qu'au contraire, quand il y a...
La revue 21, pour absolument. Citer un exemple.
Un très bon exemple.
Mais tout de même...
Donc, si vous voulez, aller contre une forme de consumérisme pratique et rapide, ça marche aussi.
Mais tout de même, j'ai pu constater depuis de nombreuses années que le monde de l'éducation a été arrêté, Emmanuel Davidenkopf, il y a quelques années. Les supports qui s'intéressent, comme le Figaro étudiant, pour citer un de vos concurrents, à l'université, attirent davantage de publicité. Est-ce qu'il n'y a pas un biais journalistique, à savoir qu'il est intéressant de parler des grandes écoles, des universités, à ce qui peut attirer des publicités et puis aussi une distribution dans ces universités et grandes écoles. Ça parlait de l'éducation nationale, vieux sujet, moins sexy, comme on dit parfois dans les rédactions.
Je ne vais pas répondre pour les confrères. L'éducation au Monde, en tout cas, je ne parle pas du supérieur, je parle du scolaire, c'est quand même 3 journalistes, je pense que peu de médias peuvent en dire autant. Donc non, c'est un sujet qui reste extrêmement important, qui a toujours été important pour le Monde, pour un tas de raisons historiques. La première d'entre elles étant que ce journal porte dans son identité des valeurs de connaissance, des valeurs liées au fait que l'intelligence du monde, l'intelligence des choses permet d'être un citoyen plus éclairé. Il y a ce projet-là dans le journal. Ensuite, est-ce que pour poser la question plus brutalement que vous ne le faites, est-ce que le fait de s'adresser aux étudiants, c'est aussi aller chercher un marché publicitaire? Oui, mais depuis Girardin, la publicité est cofinancée par les lecteurs et par les annonceurs, donc c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui, et tous les médias sont en quête du meilleur équilibre dans ce domaine-là. Nous, ce qui nous importe beaucoup aujourd'hui, c'est de voir que notamment les abonnements numériques, et notamment les abonnements numériques pour les jeunes, sont en croissance. Vous savez, l'enjeu premier pour un média, c'est quand même d'aller chercher des lecteurs, y compris quand au bout du bout ça permet de trouver des annonceurs. Mais le problème et notre problématique et nos débats quotidiens, ils sont autour du lecteur.
Marie-Caroline Messière de l'étudiant.
Sur cette question des annonceurs, puisque l'étudiant est un média qui s'adresse aux étudiants, une petite nuance quand même. Effectivement, il y a la question du marché publicitaire. Effectivement, les écoles, le monde de l'enseignement supérieur est peut-être un petit peu plus varié, diversifié, en tout cas dans l'idée qu'on peut en avoir. Mais ça change énormément, puisque l'éducation nationale et l'éducation secondaire aussi voient l'arrivée de nouveaux acteurs, notamment dans le numérique, qui vont être demain de gros acteurs. Donc cette question du marché publicitaire évolue. Et ce qui compte, je crois, pour un média, comme l'a dit Emmanuel Davidenkopf, c'est d'accompagner son lecteur, d'aller le chercher là où il se trouve avec ses besoins. Et à l'étudiant, d'ailleurs, même si on s'appelle l'étudiant, on s'adresse à des lecteurs dès 13 ans, puisqu'on a ouvert il y a quelques mois, ou en tout cas étoffé, notre rubrique collège avec le lancement de notre nouveau site, avec des entrées 6e, 5e, 4e, 3e. Donc, qui fait qu'on s'intéresse aux lecteurs, y compris dès le collège, parce que la question de l'orientation, c'est quand même notre savoir-faire, elle se pose de plus en plus tôt, elle se pose chez les parents, elle se pose chez les enfants, elle se pose quelquefois dans certaines grandes métropoles dès le primaire, on en sait quelque chose à Paris, et c'est pour ça que la question de l'éducation, elle peut plus être aussi segmentée qu'elle ne l'était il y a quelques années, en supérieur, secondaire, primaire, avec des marchés bien distincts. Je crois que c'est plus complexe que ça aujourd'hui.
Et ça commence donc bien avant le bac. Géraldine Mosna-Savoie, il n'y a pas de publicité sur France Culture, mais vous souhaitiez réagir.
Mais juste, en fait, c'est intéressant cette idée de segmentation des publics, parce que quand on prépare les bacs philo, à l'inverse, nous, on se demande comment on va toucher une certaine population. Une question peut-être qu'on se pose tout le temps, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va donner aux gens, qu'est-ce qu'on a envie de dire aux gens. Mais effectivement, là, on se demande quelle est la meilleure manière de rester dans l'esprit des nouveaux chemins, c'est-à-dire ce qui fait à la fois ce mélange entre des textes de philosophie et puis des films, des extraits, et puis des explications très techniques et en même temps des accès beaucoup plus simples. Et en même temps, comment on peut garder ça tout en s'adressant à un public qui, au départ, effectivement, les lycéens ne vont pas écouter France Culture. En tout cas, c'est sûrement pas l'idée type qu'on se fait de l'auditeur de France Culture. On se dit que c'est un bon moyen, peut-être, de le toucher. Et en même temps, je trouve qu'on est assez dépassé. C'est-à-dire qu'on se pose la question du segment, du public visé à ce moment-là. Et en même temps, très vite, je pense qu'on oublie cette question de viser tel public parce que on veut s'en tenir aussi à une discipline qui serait la philosophie qui plaît à tous. C'est-à-dire que qui plaît à tous, en tout cas qui parle à tous. C'est-à-dire que tout le monde a rencontré la philosophie une fois dans sa vie. On garde un souvenir parce que c'est un souvenir très court, en fait. C'est la seule discipline où on y a droit qu'un an. Et donc, on se souvient forcément de son prof, étant donné qu'on n'en a pas eu d'autres. On se souvient s'il a été terrible, génial, ou si on a raté à cause de lui, ou s'il nous a ouvert les yeux sur le monde. Et je crois que là, d'avoir deux semaines de nouveaux chemins consacrés à la philosophie, une fois une semaine en janvier avec les bacs blancs de préparation, et une autre fois en mai là avec les bacs de philo, effectivement, on se dit, là, on va essayer de multiplier la proposition, de démultiplier les voies d'accès avec des voies différentes de professeurs et des voies d'entrée différentes en fait à ces épreuves-là.
C'est très important, Emmanuel, je me permets d'insister sur ce que j'ai dit. Je crois que c'est exactement la fonction des médias. On est en complémentarité, le bac se prépare dans les établissements, dans les lycées.
Nous rassurons les enseignants qui nous écoutent.
Tisser des liens, envoyer des messages, multiplier les portes d'entrée possibles pour aller vers la connaissance, par des nouveaux chemins, si possible, c'est quelque chose pour moi. Et ça, c'est pleinement la fonction des médias.
Vous le savez, puisque vous êtes journaliste spécialisé dans le domaine éducatif depuis longtemps, Emmanuel Davidenkopf, et vous aussi, Marie-Caroline Missir, et je ne vais rien vous apprendre, Géraldine, la réussite scolaire en France est extraordinairement corrélée à l'origine sociale. Et donc, je me suis demandé si toutes ces aides qui passent par la presse écrite, qui aussi, elle, touche certaines catégories sociales et pas d'autres, une radio comme France Culture qui, malgré tout, touche certaines catégories sociales aussi plus que d'autres, finalement, est-ce que c'était le bon moyen d'élargir l'aide à la préparation au bac? Est-ce qu'on arrive, nous aussi, puisque c'est peut-être un enjeu à surmonter, ces différences sociales et à s'adresser aux lycéens qui ont le plus besoin d'être aidés et qui pourraient être le plus aidés par France Culture ou par Le Monde, Emmanuel Davidenkopf?
Je laisserai Marie-Caroline Missire parler de ce que fait l'étudiant sur notamment les bacs pro, parce qu'elle fera ça mieux que moi. Mais en revanche, sur ce sujet, par exemple, des baccalauréats professionnels, mentionner une initiative qui avait été prise l'année dernière par une autre radio de cette maison, qui est chère à mon cœur, qui est France Info, qui avait fait une journée spéciale autour du baccalauréat professionnel, dont on parle relativement peu. Et c'était pas uniquement parce que c'était les 30 ans du baccalauréat professionnel.
Et on salue Célia qui irait au passage.
Façon de...
Absolument. Qui officie sur cette antenne.
Absolument, c'était aussi une façon de dire cette importance-là. Non, ce qu'on constate quand même, c'est que justement, grâce à la démocratisation d'un certain nombre d'outils, et notamment des téléphones portables, enfin des smartphones, pour employer l'anglicisme en vigueur, on arrive quand même à toucher des publics qui probablement et plausiblement n'étaient pas touchés par l'édition d'un supplément papier
qui
était payant.
C'est un peu l'objectif aussi ?
C'est gratuit, ils l'ont dans leur poche. Les formats, à partir du moment où les formats sont complémentaires et différents de ce qui leur est proposé en salle de classe, fonctionnent. Donc non, on peut espérer, ils ont quelques instants d'optimisme dans ce monde et espérons que justement la multiplication et la multiplicité de ces offres contribuent à tisser de nouveaux liens et à tisser des liens vers les savoirs avec des publics pour lesquels ce lien n'était peut-être pas aussi évident que cela il y a 10, 20 ou 30 ans.
Un mot sur cette question, Géraldine, Marie-Caroline, Missire.
Je veux bien rebondir sur cette belle introduction d'Emmanuel. Effectivement, je crois que c'est au cœur de la mission de l'étudiant. Rendre service, je l'ai dit, mais surtout s'adresser à tous. Il y a quand même une mission un peu civique dans ce qu'on essaye de faire du côté de la rédaction, de tout l'étudiant. C'est donner accès, et l'on le fait aussi à travers nos salons, à une information qui est justement un point de blocage, qui est souligné à longueur de débat sur les inégalités dans l'éducation nationale. Comment donner un meilleur accès à l'information à tous
sur l'orientation,
absolument. Et donc ça, c'est un levier quand même pour relever ce défi des inégalités scolaires, comme l'est le numérique. Et sur le bac pro, effectivement, c'est un sujet qui mobilise souvent moins les journalistes et les médias, le grand public, que le bac général et les épreuves reines comme la philo. Nous, effectivement, à l'étudiant, la rédaction propose des to-do list, c'est-à-dire les choses qui restent à faire pour le bac pro, des quiz, des fiches de révision pour accompagner ces lycéens-là qui représentent, vous l'avez dit Emmanuel, 30%.
Oui, on parle bien des bacheliers. Les bacs, absolument. Tous les baccalauréats. Allez, dernière question, le temps a filé, comme d'habitude, à Rue des Écoles, assez vite. Bien, vous faites appel à des enseignants pour développer vos émissions. Par exemple, Géraldine Mosna-Savoie de préparation au bac. Comment les sélectionnez-vous ?
Alors, c'est très simple. On fait des annonces, en fait. C'est-à-dire que pour participer à une émission d'une heure devant ses élèves, pour rejouer le bac devant ses élèves, ça, c'est difficile. C'est-à-dire de se mettre à la place des élèves. On donne plein de conseils aux élèves. On les écrase de notre approche pédagogique, de référence, etc. Et en fait, le fait d'avoir un prof qui se prête à l'exercice va dédramatiser un petit peu ça. Donc, il faut que le professeur ait envie de le faire. Et on fait des annonces à l'antenne, sur les réseaux sociaux, pour effectivement toucher, rencontrer des personnes, ou que ces personnes-là puissent nous contacter pour avoir envie de le faire, avec tout ce que ça comporte de effectivement de repasser le bac devant ses élèves, d'être jugé aussi, et puis de jouer le jeu de la radio, ce qui n'est pas un exercice tout le temps facile quand on est, même si on a l'habitude de prendre la parole devant des élèves, ce qui est un exercice difficile. Effectivement, c'est pas la même chose de dire, alors là, je vais pas expliquer ce texte du contrat social de Rousseau en trois cours. Là, j'ai 54 minutes devant moi.
Emmanuel Davidenkoff, vous faites un casting de profs ?
Bien sûr. Non, j'allais dire, on les choisit et ils nous choisissent. On se choisit mutuellement parce que quand les professeurs font tout cela, c'est sur leurs heures perdues. Donc, c'est une implication supplémentaire. Souvent, on a affaire à des enseignants qui sont très, très engagés, très motivés pour la réussite, non seulement de leurs élèves, mais des élèves en général, puisqu'ils ne s'adressent pas seulement à leurs élèves. Ensuite, je pense qu'il faut juste distinguer les offres audiovisuelles, c'est-à-dire que ce soit de l'audio pur ou de l'audio filmé, enfin de la vidéo, où effectivement, j'allais dire qu'un enseignant qui a une éloquence particulière ou une capacité à convaincre particulière sera une qualité qu'on prendra en considération. Quand c'est à l'écrit, à la limite, ça, j'allais dire, ça compte moins.
Merci à tous les trois pour préparer le bac. Donc on peut aller sur le site de l'étudiant, sur le site du Monde. Il y a aussi des applis qui ont été développées en partenariat avec le quotidien, aussi avec l'étudiant. Tout ça est gratuit, rappelons-le, tout comme écoutez France Culture, ça reste gratuit. Votre sujet demain, Géraldine Mosna-Savoie, donc dans les nouveaux chemins à 10h. L'État doit-il maintenir l'ordre ou assurer la justice?
C'est ça, ça commence demain et ce sera sur donc toute la semaine, deux explications de texte et puis deux dissertations dont le sujet que vous venez de citer demain.
Avec des enseignants, très bonne semaine de bac.
Merci à vous.
Et pour cette dernière partie de l'émission Focus sur les 1 an de contestation de la réforme du collège. Une contestation qui a pris bien des formes mais qu'on a pu voir s'exprimer cette semaine avec une manifestation jeudi. Pour parler de ce qui se passe bien dans les établissements, dans les collèges, j'ai décidé d'inviter une enseignante. Bonjour Blandine Lehec.
Bonjour.
Vous êtes professeure d'art plastique au collège Moulin-Joly, c'est à Colombes dans les Hauts-de-Seine. J'indique que vous êtes TZR, ça veut dire que vous êtes remplaçante et puis que vous êtes syndiquée au SNES, même si vous êtes ce qu'on pourrait appeler une enseignante de base, vous n'avez pas de responsabilité syndicale. Un mot sur votre engagement contre cette réforme. Comment cela a-t-il commencé? Étiez-vous sceptique dès le début?
Moi, j'ai été assez sceptique dès le début. Après, je restais ouverte aux propositions émises par le gouvernement, même si, effectivement, mon parcours et la formation que j'avais eue et mon entrée dans la fonction me laissaient assez sceptique sur ce qui restait à venir, ouais, et sur la mise en place notamment de la réforme. Pas tant sur le fond, mais surtout sur la mise en place et son application concrète et réelle au sein de l'établissement.
Parce que c'est une question que je me suis très sincèrement posée en tant que professeur d'art plastique et sans vous faire du tort, une petite discipline. On peut être intéressé par le fait de travailler en interdisciplinarité et pourtant, ça vous semble quand même compliqué?
Je suis plus qu'intéressée, mais je pense au même titre que mes collègues dans les autres disciplines. Mais pour cette réforme, l'enseignement des arts plastiques est confondu avec l'enseignement de l'éducation musicale. Et on est regroupé sous un thème qui est enseignement artistique. Et du coup, ma seule petite heure de cours de la semaine, je me demande même si elle va pouvoir perdurer au sein de la réforme. Je conçois l'interdisciplinarité comme quelque chose de riche et qui doit faire partie de l'école, mais comme quelque chose qui vient en plus et en aucun cas qui doit venir circonscrire, rogner et priver du temps disciplinaire, en fait.
Et c'est bien ce qu'on entend de la part de ceux qui fustigent cette réforme, c'est le sentiment d'être attaqué sur son terrain, sa discipline et surtout sur son temps avec les élèves,
vous
le partagez avec vos collègues d'autres
disciplines ? Non seulement je le partage, et puis je le partage évidemment avec les collègues de ma discipline, mais avec les collègues de l'établissement, c'est-à-dire que oui, on fait des projets ensemble et on fait des ponts et on établit des liens entre plusieurs disciplines, et c'est un réel qui existe déjà. En revanche, il existe en plus du temps qui nous est alloué par discipline. Et là, ce que la réforme veut mettre en place, c'est enlever du temps disciplinaire pour injecter de l'interdisciplinarité. Et l'argument que nous propose le gouvernement et Najat Vallaud-Belkacem, c'est de nous dire que, mais non, ce sera une façon de faire notre discipline autrement. Mais en fait, moi j'ai 1 heure d'art plastique par semaine, je vois pas comment je peux continuer à faire de la pratique avec les élèves si sur cette heure-là, j'ai 1 demi-heure d'interdisciplinarité. Je vois pas comment concrètement, dans un réel, je peux mettre en place mon travail, mon programme et ce que je dois faire avec les élèves, quoi.
Et vous pensez que ça va baisser vos exigences?
J'espère pas. Je suis pas pour le nivellement par le bas, mais je pense que cette réforme...
Personne ne dit qu'il l'est.
Hein. Ouais. Bah oui, mais c'est ça le problème, c'est que je pense que cette réforme, elle se pose pas les bonnes questions. Je ne vois pas comment on peut proposer plus à des élèves et demander plus d'exigences et de la part des élèves et de la part des enseignants en donnant moins de moyens. Pour moi, c'est un calcul qui est impossible, en fait. On en arrive tous au même point, c'est que cette réforme va être impossible à mettre en place.
Mais pourquoi? Techniquement, qu'est-ce qui est difficile? Vous manquez de temps pour l'organiser?
Non seulement on manque de temps, et puis surtout on manque cruellement de moyens. C'est-à-dire que nous, concrètement, physiquement, enfin numériquement, on n'a pas d'heures suffisantes pour mettre en place cette réforme. Et en fait, ça se télescope aussi, nous dans notre collège, mais je pense que c'est le cas de bon nombre d'établissements, ça se télescope avec ce qu'on a appelé la DHG, c'est la dotation horaire globale. C'est un terme un peu barbare, mais ça signifie le nombre d'heures allouées à chaque établissement en fonction des effectifs. ce qui va nous permettre de prévoir le nombre de classes ouvertes, le nombre d'élèves qui fréquenteront le collège, et du coup le nombre de professeurs, le nombre d'heures. Et on est en baisse constante de moyens. On nous supprime des heures. L'année prochaine, on va effectivement devoir supprimer beaucoup de choses, beaucoup de projets et des classes qui sont mises en place pour la réussite de nos élèves, parce que c'est quand même ça l'important, c'est que nos élèves réussissent. Et des projets qui sont réels, concrets, qui sont en place, vont être supprimés pour la mise en application de cette réforme, parce que il y aura un seuil plancher, un seuil d'heures que les élèves n'auront pas le droit de dépasser. Sur un exemple très concret, par exemple, nous, en classe de 6e, on propose actuellement aux élèves 6 heures de français, qui sont les 5 heures disciplinaires, plus 1 heure de soutien. Et bien, dans la réforme, il y aura 4h30 de français. Et à l'intérieur de ces 4h30, 1 heure en demi-groupe. Et c'est un seuil que l'on n'a pas le droit de franchir. Or, nous, on constate quand même que l'établissement dans lequel j'enseigne, il est en REP, en réseau d'éducation prioritaire, zone prévention violence, et on fait face à un public qui a besoin de plus. Et je pense que là où le gouvernement est malhonnête dans cette réforme, c'est qu'il souhaite proposer quelque chose d'égalitariste et proposer aux élèves que tout le monde ait le droit à la même chose et prétende à la même chose. Mais sauf que nous, quand on récupère des élèves en 6e, les élèves de notre collège n'ont pas les mêmes besoins que les élèves qui sont scolarisés derrière la maison de Radio France, par exemple.
Mais c'est aussi, cette réforme, une opportunité pour les équipes enseignantes de faire leurs propres propositions. C'est aussi l'esprit de la réforme, que chaque collège adapte par des projets de l'équipe pédagogique ses cours, ses enseignements à son public. Ça, vous le récusez ?
C'est une très bonne chose de vouloir laisser de l'autonomie aux professeurs, et c'est ce dont se targue le gouvernement. Enfin, on va vous laisser de l'autonomie et de la confiance, que dans la réalité, moi, j'interprète comme de l'abandon pur et simple, parce qu'on n'est pas rémunéré pour ces heures de conseil pédagogique. Et en fait, on est complètement livré à nous-mêmes. Et une fois de plus, dans un exemple très concret de mon établissement, la mise en place de la rentrée 2016, pour l'instant, elle est nulle. Il n'y en a pas. On n'a non seulement pas les moyens, et on n'a pas tant de concertations qui sont allouées à la mise en place de cette réforme.
Alors attendez, c'est assez grave tout de même. Ça veut dire que le mois de septembre, la rentrée prochaine, ne va pas être préparée ni à la fin du mois de juin, ni avant la pré-rentrée ?
Il va falloir qu'elle le soit, mais je ne sais pas comment elle le sera.
Est-ce que le fait d'être contre cette réforme aussi n'amène pas des enseignants à faire de l'obstruction ?
Je pense que dans notre cas, c'est pas de l'obstruction, c'est simplement du pragmatisme. C'est-à-dire qu'il est impossible pour nous, matériellement, de mettre en place cette réforme. Nous n'avons pas suffisamment d'heures et on nous demande de faire des choix cornéliens. C'est-à-dire supprimer une classe qu'on appelle chez nous une 6e allégée, qui cible des élèves qui ont déjà des difficultés scolaires, un problème d'apprentissage de la langue française qui n'est pas forcément une langue maternelle, des problèmes d'acquisition aux sorties de la primaire. C'est cette classe va être supprimée pour pouvoir mettre en place la réforme, entre autres choses. Et puis vous reveniez tout à l'heure sur le statut des enseignants. Moi, je suis thésédaire, mais comme beaucoup d'autres, et j'ai aussi des collègues qui sont contractuels, c'est très très compliqué d'envisager de mettre en place une réforme et de travailler en interdisciplinarité quand 30 ou 40% de l'équipe pédagogique se compose de personnels qui sont pas pérennes dans l'établissement. C'est assez paradoxal. On est quand même au plus proche des élèves. C'est quand même notre quotidien d'être tous les jours avec eux. Et malgré tout, ce réel-là qu'on vit, on ne veut pas le prendre en compte. Et c'est d'autant plus paradoxal que Najat Vallaud-Belkacem se targue de dire quand même tout le temps que il faut réadapter l'école et le collège au réel de notre société. Je pense que les élèves ont besoin de sortir du réel dans lequel ils sont déjà englués et qui est pas rose pour eux. Et moi, je refuse de transmettre à mes élèves des compétences et des savoirs professionnalisants et utiles comme des compétences prêtes à servir pour une société qui ne leur fait pas de place.
Merci, Blandine Lehec. Je rappelle que vous êtes professeure d'art plastique à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes également syndiquée au SNES, ici à Rue des Écoles. Eh bien, on écoute aussi, et surtout les enseignants, mais pas que. Évidemment, nous aurons l'occasion de revenir sur la réforme du collège et d'en débattre. Que vous ayez écouté Rue des Écoles ce dimanche 22 mai ou en différé, la meilleure chose à faire, c'est de vous abonner à notre podcast sur franceculture.fr, par exemple. Merci à tous nos invités pour vous rafraîchir les idées, vous cultiver ou bien sûr pour réviser le bac. Je vous rappelle que vous pouvez écouter la semaine du bac mention France Culture, coup d'envoi demain avec la fabrique de l'histoire. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 17h. Pour l'heure, c'est l'ami Antoine Garapon qui nous parle évidemment de justice. Bonne soirée sur France Culture.